Quelques petits plaisirs minuscules, tirés du livre « La première gorgée de bière » de Philippe Delerme. Un couteau dans la poche. Pas un couteau de cuisine, évidemment, ni un couteau de voyou à cran d'arrêt. Mais pas non plus un canif, disons un Opinel numéro 6 ou un Laguiole. Un couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père. Un couteau qu'il aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à large côte. Un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner, piquant les tranches de saucisson avec la pointe, pelant sa pomme lentement, le poing replié à même la lame. Un couteau qu'il aurait refermé d'un geste ample et cérémonieux après le café bu dans un verre, et cela aurait signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail. Un couteau que l'on aurait trouvé merveilleux si l'on était enfant. Un couteau pour l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois, la garde sculptée dans l'écorce. Le couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous étiez enfant. Mais un couteau pourquoi? Car on n'est plus au temps de ce grand-père et l'on n'est plus enfant. Un couteau virtuel alors? Et cet alibi dérisoire? Mais si, ça peut servir à plein de choses, en promenade, en pique-nique, même pour bricoler quand on n'a pas d'outils. Ça ne servira pas, on le sent bien. Le plaisir n'est pas là. Plaisir absolu d'égoïsme, une belle chose inutile de bois chaud ou bien de nacre lisse, avec le signe kabbalistique sur la lame qui fait les vrais initiés. Une main couronnée, un parapluie, un rossignol, l'abeille sur le manche. Ah oui, le snobisme est savoureux quand il s'attache à ce symbole de vie simple. À l'époque du fax, c'est le luxe rustique, un objet tout à fait à soi, qui gonfle inutilement la poche et que l'on sort de temps en temps, jamais pour s'en servir, mais pour le toucher, le regarder, pour la satisfaction benoîte de l'ouvrir et de le refermer. Dans ce présent gratuit, le passé dort. Quelques secondes, on se sent à la fois le grand-père bucolique à moustache blanche et l'enfant près de l'eau dans l'odeur du sureau. Le temps d'ouvrir et refermer la lame, on n'est plus entre deux âges, mais à la fois deux âges. C'est ça, le secret du couteau. Deuxième petit plaisir minuscule. Le paquet de gâteaux du dimanche matin. Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un Paris-Brest, deux tartes aux fraises, un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le millefeuille ne tient pas. C'est important, ce carton plat, carré, au bord arrondi relevé. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile au destin menacé. Ce sera tout? Alors, la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nuée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous, mais dès la porte du magasin franchi, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont à portée comme on tient un pendule. Sourcier des rites minuscules, on avance sans arrogance ni fausse modestie. Cette épaisse de componction de sérieux de roi mage, n'est-ce pas ridicule? Mais non. Si les trottoirs dominicaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose. Autant que ça et là, quelques poireaux dépassant d'un cabas. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol, celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après-messe et les bouffées du PMU de café, de tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui, le temps balance en encensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café. Troisième petit plaisir minuscule. Aider à écosser des petits pois. Ah, c'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner, loin encore les parfums mitonnés du déjeuner. La cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin pour voir si le courrier était passé. « Je peux t'aider ?»« Ben, ça va de soi, on peut aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre. » Docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Oh, ce n'est pas bon. Un peu amer, mais frais. Comme la cuisine de 11 heures, cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés, tout près, contre l'évier, quelques carottes nues, brillent sur un torchon, finissent de sécher. Alors on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre, à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée, c'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours à léger contretemps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manche retroussée. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier, c'est doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau verte tendre et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair et puis... Il y aura juste le pain à aller chercher. Encore un petit plaisir. Prendre un porto. D'emblée, c'est hypocrite. Un petit porto alors ? On dit cela avec une infime réticence, une affabilité restrictive. Bien sûr, on n'est pas de ces rabat-joie qui refuseraient toutes les largesses apéritives. Mais le petit porto, alors, tient davantage de la concession que de l'enthousiasme. On jouera sa partie, mais tout petit, mezza forza, à furtive lampée. Un porto, ça ne se boit pas, ça se sirote. C'est l'épaisseur veloutée qui en est la cause, mais aussi la parcimonie affectée. Pendant que les autres se livrent à l'amertume triomphale et glaçonnée du whisky, du martini gin, on fera dans la tiédeur vieille France, dans le fruité du jardin de curé, dans le sucré suranné, juste de quoi faire rosir des joues de demoiselles. Les deux hauts de Porto goulaient au fond de la bouteille noire. Porto, ça roule au fond d'un golfe sombre, avec un port de tête altier de gentille ombre. De la noblesse cléricale, austère et cependant galonnée d'or. Mais dans le verre, il reste seulement l'idée du noir. Plus grenat que rubis, c'est de la lave douce où donnent des histoires de couteaux, des soleils de vengeance et des menaces de couvent sous le fil du poignard. Oui, toute cette violence, mais endormie par le cérémonial du petit verre, par la sagesse des gorgées timides, du soleil cuit, des éclats assourdis. Une saveur perverse de fruits mats où se seraient noyés les débordements, les brillances. À chaque lampée, on laisse le porto remonter vers une source chaude. C'est un plaisir à l'envers qui s'épanouit à contre-temps quand la sobriété se fait sournoise. À chaque coup de langue en rouge et noir, monte plus fort le long velours. Chaque gorgée est un mensonge.